Pour finir, donc, on a changé le programme. Bon, moi, je suis pas mécontent parce que ça m'ennuyait de déplacer l'église et tout ça. On vit ça tous les jours. Hein, donc, bon, moi, on était nombreux. Et comme je m'étais dit qu'il fallait que je sois esclave, donc, je recule. Je disais au père Paul et au père Marc-Antoine que quand je lis la parole de Dieu, là, je pense maintenant assez souvent à une parole que j'ai lue en lisant Origène et Saint Basile le Grand. C'est, il dit, Saint Origène dit, Origène, parce que Origène dit, quand je lis la parole de Dieu, je jubile. Mais parfois, en lisant la parole de Dieu, peut-être maintenant plus souvent que j'ai du temps, de la solitude pour le faire, c'est une véritable jubilation. Et quelque part, des fois, je me dis, parce que tout se tient dans la parole de Dieu, vous voyez avec l'histoire d'Alexandre Rufus, tout se tient, et je me dis, quelque part, la parole de Dieu, mais c'est un pléonasme, hein, quelque part, c'est la preuve de l'existence de Dieu. C'est pas, donc, si un soir de solitude, de doute, etc., vous penchez-vous sur la parole de Dieu, et soyez réconfortés par la parole de Dieu. La parole de Dieu et le réconfort, c'est le logos s'est fait chair. Bon, voilà. Donc, c'est là où on rencontre Jésus, d'abord. Quand on est seul, c'est lorsque on lit le témoignage. Martyrs, c'est des témoignages. Les apôtres sont des témoins. Et ce qu'ils nous ont rapporté, c'est pour que nous croyions. Effectivement, moi, quand je lis la parole de Dieu, je crois que Dieu existe. Voilà. Alors, on va... vous avez vu que quand j'ai parlé de disciples, donc un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus sur le chemin de sanctification. Et le chemin de sanctification, c'est le chemin de renoncement à soi, c'est de la kénose, donc comme à l'image de Christ. Oui, à l'image de Christ, je deviens esclave. C'est ça. Et c'est ça, prendre sa croix. Prendre sa croix, c'est devenir esclave comme Jésus. Où il nous mène. Et il dira à Saint-Pierre, tu ne sais pas quand tu seras plus âgé, qui te mènera, etc. Tu ne sais pas. Donc c'est très loin du dolorisme de prendre sa croix et de souffrir. La souffrance est un mystère. C'est un mystère. Nous avons les uns et les autres nos poids de souffrance et nous en aurons encore. C'est un mystère où Dieu se révèle aussi, et un mystère redoutable. Mais prendre sa croix, ce n'est pas faire du dolorisme, de dire je vais souffrir comme le Christ, etc. La souffrance n'est pas voulue par Dieu, n'est pas voulue par le Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il fait des gestes, c'est des gestes de réconciliation, c'est des gestes de relèvement, c'est des gestes de recréation. Jésus, le Fils de Dieu, s'est incarné pour nous recréer. Ce n'est pas pour nous faire souffrir. Dès qu'il voit la souffrance, Dieu est là, présent, à côté de nous. Moi, l'icône que je préfère, qui me parle le plus, c'est celle qui est au Louvre. C'est Jésus qui est à côté de l'abbé Ménas et qui a son bras sur l'abbé, et on parlait de joue, quelqu'un là, à propos de l'évangile de Matthieu. Mon joug est léger, mais c'est le bras de Dieu qui est léger, le bras de Jésus là qui nous emmène à sa suite. En fait, quand Jésus dit venez, viens, suis-moi, ben, je crois qu'en fait il est à côté de nous et il nous porte dans son bras. Et d'ailleurs, c'est le geste qu'il a pris avec ce petit enfant qu'il prend dans ses bras. Est-ce que ce n'est pas le geste de Jésus qui prend l'abbé Ménas, c'est comme ça qu'il le chemine et l'empêche de tomber. Donc Dieu ne veut pas la souffrance de l'homme. Donc le chemin de croix n'est pas un chemin de souffrance, c'est un chemin de kénose. Pour certains, ça ira jusqu'au martyr. Pour d'autres, ça sera d'autres témoignages. Nous sommes tous appelés à être témoins. C'est ça, être un disciple, en définitive, martyr. Martyr, c'est pas nécessairement être, comment dire, décapité, etc. Y a beaucoup d'autres douleurs qui peuvent nous arriver. Et Dieu seul sait ce qui nous attend. Et en tout cas, Être demeuré en Christ, demeurer auprès du Christ, demeurer en lui, c'est garder cette confiance que Dieu est là pour nous relever, nous soutenir et nous amener à la vie. À la vie. Je pense que vous, les uns et les autres, vous pensiez que j'allais dire à la vie éternelle. Oui, effectivement. Vous savez que dans l'Évangile, on parle de vie, de vie. Jésus est venu pour qu'on ait la vie et pour qu'on l'ait en surabondance. Au chapitre 10 de Jean. Le seul évangéliste qui parle de vie éternelle, c'est effectivement l'évangile de Jean, l'évangéliste Jean. Mais le sens du mot éternel dans cet évangile-là, ce n'est pas la vie après la vie, c'est la vie en surabondance. Il le traduit au milieu de son évangile au chapitre 10. La vie que le Seigneur nous propose, c'est une vie réconciliée, une vie recréée, une vie en plénitude, une vie en surabondance. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le futur, c'est déjà présent si nous sommes frères et sœurs les uns des autres. C'est Jésus qui dit, il n'y a pas plus grande joie que de donner, effectivement sa vie, mais de donner simplement. Quand vous faites un geste de don à quelqu'un, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé on est sollicité par des mendiants dans la rue, etc., des fois d'une manière agressive, et puis un jour, vous ne savez pas pourquoi, un jour, tout d'un coup vous vous arrêtez, vous penchez et vous donnez effectivement une pièce, et bon, il y a un regard qui s'échange là, peut-être une parole. En tout cas, vous vous êtes arrêté. Le Seigneur s'arrête, il passe et il s'arrête. Et est-ce que vous n'avez jamais vécu ça en disant après, en reprenant votre chemin, une certaine, je parlais de jubilation il y a 5 minutes, une certaine jubilation, une certaine joie. Ben, la vie en Christ, c'est ça, c'est peut-être ce geste d'aumône, et la grâce, c'est tout d'un coup, après, se sentir en joie d'avoir fait ce geste, somme toute, banal. Mais en ayant pris quand même le soin de se pencher et de faire les gestes du Christ, de se pencher et de regarder la personne. Jésus, lorsque je disais, et d'ailleurs nous allons le lire demain grâce à Dieu, justement, on est au début de la lecture de l'évangile de Matthieu en continu, et nous lirons demain donc l'appel des disciples, des premiers disciples. Et d'ailleurs toute la semaine, nous lisons la charte du royaume, hein, le fameux discours sur la montagne. Donc voilà. Donc jubilation. Donc, prendre sa croix, ce n'est pas du dolorisme. Dieu ne veut pas la souffrance de l'homme. Il y a quelqu'un qui s'en charge, vous le savez, un diviseur. Alors, j'avais dit que je parlerais un peu, donc ça va prendre un peu de temps, du moins très peu de temps. Du lavement des pieds. C'est un mystère que malheureusement dans l'Église, dans nos églises orthodoxes, que nous célébrons, malheureusement, c'est pendant la Semaine Sainte et il y a la plupart des églises, l'office est zappé, comme diraient les jeunes, et puis quand il n'est pas zappé, il n'y a pas grand monde. Hein. Bon. Donc c'est quelque part un mystère que nous ne voyons pas souvent. En tout cas, c'est hyper important. Donc ce chapitre, c'est au chapitre 13, donc c'est les versets 1 à 20, qu'on appelle, comment dire, le lavement des pieds. L'évangile de Jean est divisé en deux, hein, on peut le diviser en deux. Hein, bon, c'est le livre des signes, où il y a 7 signes qui sont faits jusqu'au chapitre 12, et après, à partir du chapitre 13, le récit de la Passion, les grands discours de Jésus, ce qu'on appelle les discours sacerdotales, etc. Et ça commence comme ça, au chapitre 13. Avant la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Et un repas ayant lieu, le diable ayant jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il va vers Dieu. Il se lève de table, dépose ses vêtements, prenant un linge, il s'en ceint, et puis il met de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge. Donc je coupe. Bon, pour ceux qui sont dans ma paroisse, ils savent que je découpe mon évangile comme ça. Je le lis en prenant du temps avec des stylos, des machins. Bon, maintenant avec l'ordinateur, je tape le texte et puis c'est plus facile. Parce que... Bon, je vous invite à faire comme ça pour lire. Comme ça, tout, ça fait des phares comme ça. Et puis, après, vous, au bout d'un certain temps, vous avez des, vous voyez, il y a des mots qui signent. Alors, on va aller faire un peu. On va essayer de faire ça rapidement. Vous savez qu'au début de la liturgie, le diacre dit « Voici le temps pour le Seigneur d'agir » ou « Voici le temps d'agir pour le Seigneur ». Monseigneur Joseph nous avait demandé à un moment donné de dire « Voici pour le Seigneur le temps d'agir ». Il y a un temps. Et en grec, c'est... Vous savez, il y a deux mots en grec, hein, c'est « chronos » et « le kairos ». Il y a le temps. Il y a un temps. Et ici, nous sommes avant la Pâque et Jésus sachant. Il y a le temps que son heure était venue. Jésus sait fondamentalement pourquoi et pour quand il est venu. Et il passe de son père, de passer de ce monde vers son père, de faire donc un chemin inverse. Il, lui qui était de condition divine, s'anéantit lui-même, prenant condition d'homme, d'esclave, et il y a le temps maintenant de remonter vers le père. Et ce temps est d'aimer les siens jusqu'au bout. Il les aima jusqu'au bout. Verset 13. Hein. Au milieu du repas, le diable jette sur Iscariote le dessein de le livrer. Au verset 4, Jésus se lève, dépose ses vêtements, prend un linge sans sein, met de l'eau dans un bassin, commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge. Donc celui qui était de toute éternité avec le Père, il est descendu, est en train de remonter vers le Père. Son heure est venue. Vous rappelez. Où est-ce qu'on a des serviteurs où il y a de l'eau? Vous rappelez. Dans Jean, hein. Là maintenant, on parle que de Jean, hein.
Au début.
Eh oui, au début. Il y a combien? 7 jarres. Vous vous rappelez de cette histoire? On est à la fin. Si on n'a pas lu le début, c'est sûr qu'on ne comprend rien. Et qu'est-ce que Jésus dit à sa mère? Mon heure n'est pas encore venue. Et là, alors on dit souvent, oui, c'est l'heure de la crucifixion. Oui, la mère sera au pied de la croix. C'est vrai. Mais c'est ici l'heure. L'heure de la véritable révélation du Fils, c'est Jésus sachant que son heure était venue. Voilà l'heure qui était annoncée lorsque, à Cana, il dit à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue. Il y a bien des serviteurs, il y a de l'eau. Et les eaux, vous rappelez pourquoi elles étaient faites, les eaux? C'est bien marqué dans le texte, c'était pour... la purification. Et voilà. Et nous sommes là, comme remis au début de l'évangile de Jean, un os de Cana, mais un peu différent. On est aussi un repas. Aussi un repas. Donc Jésus, l'heure de Jésus, le kairos, le temps est venu, son heure est venue. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où son heure est venue, le diable prend possession de Judas. De Judas. Judas, c'est le vous vous rappelez ce que c'est un des fils de Jacob, hein? Judas. Bon. Et à ce moment-là, Jésus se lève de table, dépose ses vêtements, prend un linge sans sein, met de l'eau dans le bassin et commence à laver les pieds. Alors le mot commence, eh oui, quand il y a un mot comme ça, il n'est pas employé souvent dans la Bible, en tout cas pas dans le Nouveau Testament. Et alors vous savez ce que commence? Où est-ce qu'il y a un commencement? Il y en a plusieurs dans la Bible. Hein? Eh oui. Eh oui, comme d'habitude, tout se tient. Et il
Merci.
y a aussi dans le premier évangile qui a été écrit, donc l'évangile de Marc, commencement de la bonne nouvelle ou l'annonce heureuse de Jésus, Messie, Fils de Dieu. Eh oui, il y a un commencement. Et là, nous avons, à l'heure est venue, il y a l'ultime commencement. L'ultime commencement, c'est de laver les pieds. Voilà, j'ai tout dit. C'est l'ultime commencement. À l'heure où Jésus va être glorifié, il se lève de table, et lui le maître, celui qu'on suit, celui sur lequel on dépose sa poitrine. On verra plus tard, non, on verra pas, on n'aura pas le temps, mais vous lirez. Et oui, celui-là, il se lève et se déshabille, il se met dans la situation du serviteur. Et là, c'est le doulos le plus nul. Les Juifs ne se lavaient pas les pieds les uns des autres. C'était pour des serviteurs. Surtout pas un Juif toucher les pieds des autres. On ne purifie pas, un Juif ne purifie pas son frère. Et Jésus va, donc, ça il faut aussi dans la psychologie. Et naturellement, si on ne connaît pas le monde juif, on est un peu gêné. Parce que, mais c'est l'abaissement le plus total. D'abord, il se met nu devant ses disciples. Bon, après, la nudité n'avait peut-être pas le même poids de pudeur qu'aujourd'hui. Quoique maintenant. Hein. Et donc, il quitte, il dépose ses vêtements et il prend le linge et de l'eau dans le bassin de purification et il commence. Il crée quelque chose de nouveau. C'est le geste du serviteur, du doulos le plus de ses disciples. Ceux qui devaient le suivre, et physiquement, comment on suit quelqu''un? Par les pieds. J'ai jamais vu quelqu'un suivre avec les mains. À moins d'être à quatre pattes, mais bon, ça va pas vite. Vous voyez? Donc il aurait pu aussi se laver que les mains. Non, c'est les pieds. Il y a encore combien de temps?
Je sais pas.
Oui, parce que j'en peux rien, moi, le texte
Peut-être
est.
au plus un quart d'heure, Père Jean-Claude.
Un quart d'heure. Bon, là, je saute.
Au plus.
Au plus.
Oui, mais bon.
Parce qu'après, c'est 6 heures et après.
D'accord. Bon, alors, mais en fait, j'ai tout dit. Hein. Parce qu'après, du verset 6 au verset 11, il est question de savoir. Alors, ce que moi je fais, toi, tu ne le sais pas à présent. C'est Jésus qui s'appelle, qui appelle. Il y a tout un jeu aussi. Parce qu'il y a Simon-Pierre qui dit, non, pas toi, tu vas pas me lever les pieds. Jésus répond, tu ne le sais pas. Et Pierre répond, et après Simon-Pierre, du nouveau Jésus. Il y a un balancement. Bon, et puis à la fin, il savait en effet. Il savait en effet. Donc il y a une question de connaissance dans ces deux versets-là autour de la purification. Vous savez que dans les évangiles, on va souvent entendre parler de qu'est-ce que être pur et impur, etc. Dans ce passage de verset, je suis obligé de raccourcir, de 6 à 11, là, il est question de pureté. Mais la pureté que Jésus désigne ici, et en tout cas dans l'évangile de Jean, la pureté, c'est essentiellement la proximité avec Jésus. C'est le fait de demeurer en lui. On est pur parce qu'on est proche du Seigneur. Ce n'est pas une question de rite. Ça rejoint le problème de sainteté. Nous sommes intrinsèquement purs. Si nous sommes proches de Dieu, ce qui nous éloigne de la pureté, c'est l'éloignement de Dieu. Vous êtes pur, vous n'avez pas besoin, parce que vous savez, il y a le dialogue, mais pas que les pieds, la tête et tout ça, là. Non. Vous êtes pur, parce que vous êtes proche de moi, parce que vous demeurez. Tant que vous demeurez en moi, vous êtes pur. Je passe. Et ceux qui voudront, j'approfondirai après. Parce qu'il y a quand même plus intéressant, toujours tout est intéressant, mais bon, on ne peut pas. Après, nous sommes au chapitre 13, toujours versets 12 à 20. Et là, il y a un mot clé, c'est vous connaissez. C'est au verset 12. Vous connaissez ce que j'ai fait. Connaissez ce que je vous ai fait. Je vous ai dit en introduction tout à l'heure que Jésus parle par des gestes. Là, il n'a rien dit. C'est quand Pierre lui parle. C'est Pierre, il fait que parler. Celui qui écoute fait que parler. Shimon, ça veut dire écouter. Qu'est-ce que celui qui il fait que au lieu d'écouter réellement, il parle. Bon, c'est comme ça. Et là, donc Jésus dit, vous avez ce que j'ai fait. Est-ce que vous connaissez ce que j'ai fait? Vous m'appelez maître et le Seigneur. Vous dites bien, je le suis. Vous rappelez, fatalement, quand vous avez lu l'Exode, vous savez qu'à un moment donné, Dieu se révèle comme je suis. Je suis celui qui... Vous connaissez. Là, nous avons... Jésus a d'autres occasions, dans d'autres passages des évangiles, des autres évangiles, de dire je suis. Il le dira devant Pilate. Et là, il dit, maître et seigneur, je le suis. Jésus dit, il est maître et seigneur. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, hein? La prière de Carmen. Seigneur et maître de ma vie. Est-ce que, on la répète pendant 40 jours, est-ce que vous avez, au même titre que notre Père, que ta volonté soit faite, et Seigneur et maître de ma vie. Moi, ça fait maintenant... On médite ça à la paroisse de Lourdes. Moi, je ne suis arrivé que là. Seigneur et maître de ma vie, je n'ai pas réussi à aller plus loin. À chaque fois, je m'interroge, est-ce que le Seigneur est véritablement le Seigneur de ma vie et le maître de ma vie? C'est une question. J'ai bientôt 60 ans et je n'ai pas été plus loin dans cette prière. Donc je n'ai pas résolu. Seigneur et maître de ma vie. Oui, Jésus dit, je suis le Seigneur et le maître. Je le suis. Et qui est ce maître de ma vie? Qui est ce maître de ma vie? Si, mais moi qui t'ai lavé les pieds, moi qui vous ai lavé les pieds, le Seigneur et maître, je suis. Et parce que moi, j'ai lavé les pieds, parce que je suis le Seigneur et Maître de votre vie, vous devez vous aussi vous laver les pieds d'un autre. C'est ma vie de sanctification, c'est, le Père nous a dit tout à l'heure, ce matin, c'est petit à petit acquérir, comme les Pères de l'Église nous disent, acquérir tout d'un petit à petit la ressemblance à Dieu. Et la ressemblance à Dieu, c'est faire comme... Jésus ne fait que de dire ce que je fais, je le tiens de mon Père, je fais ce que le Père m'a enseigné, moi aussi je vous l'enseigne. Là il dit, je suis le Maître et le Seigneur de la vie. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai lavé les pieds. Si vraiment si je suis le Maître de votre vie, vous devez faire pareil. C'est clair. Le chemin de notre sanctification fait par laver les pieds. Et laver les pieds, c'est ce que je vous décrivais. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lire les évangiles, non? En les mélangeant, dans Marc, c'est devenir doulos. Et ici, c'est devenir laveur de pieds. Extraordinaire. Moi, j'ai un ami qui est devenu cordonnier. Et je me suis dit, c'est bizarre. T'es prof, il devient cordonnier. Et oui. Mais j'ai compris un jour que peut-être il était dans ce chemin d'humilité d'être le cordonnier. C'était pas laver les pieds, mais c'était de rechausser les gens. C'est que peut-être aussi rechausser les gens, j'aime bien cette expression, c'est les remettre aussi debout. Parce que quand on a des semelles orthopédiques, par exemple, on les remet debout. Voilà. Donc, reconnaître le Seigneur et maître de ma vie, ce je suis, c'est laver les pieds. D'ailleurs, Jésus continue là, amen, amen, je vous le dis, un serviteur, et là c'est marqué doulos, c'est doulos, un. Esclave n'est pas plus grand que son maître. C'est encore pour ça que c'est beaucoup plus fort quand on aurait mis esclave. La traduction, ça c'est moins bon. La Bible de Jérusalem. C'est un esclave n'est pas plus grand que son maître. Ni un envoyé, apostolos, où je l'ai dit tout à l'heure en introduction, un apostolos n'est pas plus grand que celui qui est envoyé. Je ne suis pas plus grand que le Père qui m'a envoyé. Et si vous faites cela, si vous savez faire cela, heureux êtes-vous. Si on fait ça, c'est ce que je vous disais tout de suite en introduction, on a la vie en surabondance, on est en joie. Jésus est venu, il le dit dans l'évangile de Jean, je suis venu pour que votre joie soit parfaite. Que votre joie soit parfaite. Alors après, on continue. Ce n'est pas de vous tous que je dis cela. Je connais ceux que je connais, encore une fois, je connais ceux que j'ai choisis. C'est pour que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain a levé contre moi son talon. Vous connaissez ça? Ça, c'est le psaume 41. Peu importe, c'est intéressant. Ça fait le lien avec ce qui va suivre. Là, nous avons... Parce que Jésus, la kénose de Jésus, va beaucoup plus loin, encore plus loin. Est-ce que vous voyez où je veux venir? Il va hyper loin. Il ne lave pas les pieds qu'à ses petits copains, à ses bons petits disciples, qui sont pas si bons que ça, qui sont un peu, comment dire, bouchés. Il lave aussi les pieds à celui qui va le trahir. Celui qui va lever son talon contre moi. Et plus loin après de cette péricope sur le lavage des pieds, le lavement des pieds, Jésus va aussi donner la bouchée à celui qui va le livrer. Vous vous rendez compte jusqu'où la kénose de Jésus va? C'est pas seulement avec sa bande de copains, excusez-moi l'expression, hein, mais c'est pour avec la familiarité. La kénose du Fils de Dieu va jusqu'à donner, à laver les pieds à celui qui va le livrer. Il faut être fou. D'ailleurs, il y a un livre de, tu parlais du Père Endokim, L'amour fou de Dieu. Eh oui, il faut être fou. Et puis, il va même le nourrir. Vous vous rappelez la coupe et le baptême dont les fils de Zébédée voulaient? C'est extraordinaire. Alors, je voudrais... ce n'est pas de vous tout ce que je dis. Je connais ceux que j'ai choisis. Donc, Jésus dit bien, j'ai choisi. J'ai choisi les 12. C'est moi qui les ai établis, les 12. Mais c'est pour que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange mon pain et boit ma chair, et mange ma chair, a levé contre moi le talon. Je vous le dis dès à présent, avant que cela n'arrive, pour que vous croyiez, quand cela arrivera, que... je suis. Et là, plutôt que citer l'Exode, là, je vais vous lire un autre passage qui est intéressant d'Isaïe, parce que pour moi, Isaïe est quand même une clé fondamentale. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi, je suis. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis. C'est moi qui suis. C'est Isaïe au chapitre 43. Je suis. Voilà. C'est dans le geste de la kénose totale. Les pères ne font que répéter ça. Hein. Bon, je prends d'autres mots plus modernes. C'est dans la kénose, et saint Paul le dit, c'est dans la kénose la plus totale, jusqu'à nourrir son ennemi, jusqu'à lui laver les pieds, que Jésus se révèle comme celui qui est et qui sera de toute éternité, qui est celui qui est. Voilà. Ça rejoint l'amour des prochains comme l'amour des ennemis. Jésus nous montre les... Et saint Jean va, dans ses lettres, dire « Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les ennemis. » Voilà. Mais Jésus va, au moment de la fête de Pâques, il sait que le moment est venu. Il fait le geste le plus total. C'est le geste que saint Jean va retenir, le plus total. Donc c'est ce Jésus qui s'est abaissé, qui est en train de remonter vers le Père. Et oui, il s'abaisse jusqu'à donner à manger à son ennemi, peut le considérer comme son ennemi, pour que l'Écriture s'accomplisse. Il va donner à manger et il va les plier les pieds. Ça, c'est notre chemin. C'est notre chemin. Et se sanctifier, c'est réacquérir la ressemblance. Et la ressemblance avec... On ressemble à qui? À Jésus. C'est l'intuition fondamentale. Quand Dieu crée l'homme à son image, qu'est-ce qu'il fait? Il se contemple lui-même et il crée l'homme à... Qu'est-ce qu'il est dit? À notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme. à notre image. Et oui, comment le Père peut créer, Dieu seul créateur, il crée à l'image de son Fils. Tout notre travail de sanctification, c'est d'être comme le Fils. Et nous sommes, nous, vous êtes dans le monde, pas du monde, mais faisons les gestes comme le Christ. Faisons des gestes, pas des paroles, des gestes. Jésus n'a fait quasiment que des gestes. Et il les aima ainsi jusqu'au bout. Voilà. S'il y a des questions. Sinon, après, c'est...
Pour l'histoire de Judas, il faut toujours poser des questions. C'était écrit, donc il fallait que ça se fasse. Donc il n'a pas eu, pas eu tant de mérite. Il fallait que ça se fasse. Vous ne pouvez pas le renier, Judas. C'était écrit.
Je ne dis pas le contraire. Sauf que, pour simplifier, le mystère de Judas, n'oubliez pas que Judas était certainement un des plus proches, surtout avec le nom qu'il porte, sachant l'importance des noms que Jésus a donné, c'était celui qui était un des plus proches auprès de Jésus. C'est un peu, comment dire, une certaine apologétique chrétienne qui a fait de Judas un personnage hyper maudit. Mais ceci dit, c'est écrit, il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas, etc. Mais c'est le mystère de Dieu, ça. Bon, après, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Jésus va donner, de toute façon, lave les pieds de ce disciple et lave et lui donne son pain. C'est un mystère. Moi, je crois que, au lieu, les pères disaient... ils ont toujours que refusé de dogmatiser quoi que ce soit. Hein. On a le credo de Nicée et Constantinople, c'est contraint et forcé qu'ils ont dit des choses. Hein. Il n'y avait pas besoin. Hein. Et l'Église orthodoxe, pour écrire un article de foi, il faut beaucoup de temps. On n'a pas. C'est pas. J'ai une expérience à vous raconter. Les fidèles de Lourdes de Save, il y avait un évêque de Monseigneur Perrier qui, l'année dernière ou l'année d'avant, venait toujours pour les réunions œcuméniques. Et un jour, il me demande, est-ce que vous n'avez pas la position orthodoxe sur l'Assomption, l'Immaculée Conception. Alors, je lui dis, c'était pendant notre semaine sainte, là, du mois, avant les rameaux, je ne sais pas. Bon. Et je lui dis, écoutez, je rentre à Bordeaux et je vais voir dans ma bibliothèque, dans mes cours de Saint-Serge, j'ai des trucs, je ne pense pas que je vais trouver un article tout fait, la position orthodoxe. Je lui ai ramené quelques livres et tout ça. Il me les a fait rendre le samedi saint, le grand samedi. Et il m'a mis un mot que j'ai trouvé génial et qui rejoint l'intuition fondamentale des pères. Il m'a dit, si j'ai bien compris, parce que je lui avais noté où il fallait lire. Il y avait le truc de Meyendorf, Kianesef et tout ça. Bon, j'avais indiqué. Et il m'a dit, si j'ai bien compris, il y a des moments où il faut, quand on approche du mystère, rester en silence. Et je me suis dit, ça, c'est un évêque. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il n'y a pas besoin de dogmatiser sur... Non. Restons... on a beaucoup de choses à faire. Et sous les mystères insondables de Dieu, gardons silence et faisons les gestes d'humanité que le Seigneur nous demande. C'est tout. Je crois que là, c'est tout. Une belle parole. Donc, pour Judas... Tenons-nous-en à ce qui est écrit. Matthieu, c'est pas nécessairement glorieux, mais bon. En tout cas, Jésus est descendu aux enfers. Et visiblement, il a beaucoup délié. Voilà.
Merci. Les babes, c'est après, juste après. Voilà, c'est
bon. Oui, dans une demi-heure.
Ah, il y a quelque chose. Oui. Je vais terminer là-dessus. Excuse-moi, Père. C'est l'évangile de Luc qui commence là. Et c'est pour rendre gloire à la mère de Dieu là. Oui, je suis la servante de Dieu. Hein? C'est ça, là, lorsqu'on prie la mère de Dieu, c'est penser qu'elle se dit la servante de Dieu, qu'il m'advienne selon ta parole. La première qui nous montre le chemin, c'est la mère de Dieu. L'évangile de Jean, donc le dernier évangile, se termine comme ça, au chapitre 21, vous vous rappelez ? Jésus est au bord de l'eau, Jésus est ressuscité au bord de l'eau, et il y a les apôtres qui sont en train de pêcher. Et donc, ils pêchent 153 poissons. Je passe. Et il est dit, ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts. On peut se demander pourquoi on nous dit que c'est la troisième fois. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?»« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit à nouveau une deuxième fois, fils Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Puis il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même à ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. L'explication, il signifiait, parlant ainsi, du genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Et en disant cela, il lui dit, « Suis-moi. » Ça continue. Donc je répète, « en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, etc. Et tu ne mèneras où tu ne voudras pas. » Jésus dit, « Suis-moi. » Se retournant, Pierre, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine, il lui avait dit, « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Le voyant, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et lui ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, peu importe, toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors, etc., etc. Ce que les disciples témoignent de ces faits, qu'il les a écrits, nous savons que son témoignage est véridique, mais il y a encore bien d'autres choses que Jésus a faites. Si on les mettait par écrit, je pense que le monde ne suffirait pas pour les contenir. Vous avez noté quelque chose, là? C'est les dernières phrases de l'évangile. C'est ce qu'on appelle le rajout, le machin. Bon, peu importe. Ce Pierre, il y a une gradation. Simon, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Vous avez vu, il y a une gradation, comme un entonnoir. L'entonnoir qui amène à une certaine peine de Dieu. Simon, fils de Jean, ça veut dire quoi? Celui qui écoute, et Jean, c'est celui écoute, que Dieu fait grâce. Hein? Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Celui-là, au lieu d'écouter Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus lui dit, m'aimes-tu? Oui, oui, je t'aime. Tu sais bien que je t'aime. Tu as bien écouté. M'aimes-tu? Oui, 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 tu sais bien que je t'aime. M'aimes-tu? Oui, 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 oui. Suis-moi. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Première chose qu'il fait, mais il aime tellement Jésus que Jésus lui dit de le suivre. Il se retourne. Et l'autre? Est-ce qu'il aime vraiment Jésus? Extraordinaire. Extraordinaire, je trouve. Le mec, excusez-moi. On lui demande, m'aimes-tu? Ouais, 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 je t'adore. Ouais, 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 j'ai bien écouté, je m'appelle Shimon, parce qu'il l'appelait pas Pierre. Non, une pipe. Parce qu'il l'avait appelé Pierre quand même. C'est étrange qu'à la fin on revient. C'est parce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que l'évangéliste nous rapporte? Ou qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Est-ce qu'on écoute vraiment, les gars? Est-ce que vous écoutez vraiment? Oui, oui, je t'aime, Seigneur. Oh, oui, et puis je vais à l'église, et puis je fais tout ce qu'il faut. Oui, oui, mais tu sais bien que je t'aime. Ah, il n'y a pas de problème. Suis-moi. Et l'autre? Voilà. Et est-ce que ce n'est pas notre vie chrétienne tout entière? C'est, ouais, je t'aime, Seigneur, je t'aime, et puis je t'écoute, et puis en fait, je ne t'écoute pas du tout. Je n'écoute pas la grâce qui vient de toi, parce que moi, je serai le fils de la grâce, le fils de Jean. Et oui, je ne t'écoute pas. Et la première chose que quand tu me demandes quelque chose, je me dis, mais tiens, ça ne pourrait pas être l'autre, là. Ah non, c'est moi qui suis concerné. C'est mon salut, c'est ma vie. C'est ma vie, il est venu pour moi. Laissons les autres. D'ailleurs, le comble, c'est que c'est l'autre, justement, qui est derrière, c'est celui que Jésus aime. Voilà. Vous avez vu, notre vie spirituelle, et la clé est là. C'est qu'on est un peu à côté de nos pompes. C'est qu'on croit, on dit, oui, mais je t'aime, Seigneur, mais je t'adore. Jean-Claude, suis-moi. Ouais, et l'autre, est-ce qu'il vient avec moi ou quoi? Non, mais c'est ça. Voilà. Donc, c'est un avertissement. La fin de l'évangile de Jean est un avertissement à nous tous. Est-ce qu'on écoute bien le Seigneur? Et est-ce qu'on le suit véritablement? Et qu'en fait, ouais. Ouais, non. C'est la question, lorsqu'on va à la confession, justement, que le Père nous invitait ce matin, se poser. Est-ce que j'ai vraiment suivi le Christ? Amen.
Est-ce que Pierre ne devait pas revoir cette situation au moment du procès et qu'il y a le coq chantant? Est-ce que ce n'est pas ça, justement, ce repentir-là, pour avancer dans cette gradation d'amour? Et arriver à l'agapé, éventuellement. Parce que là, il était vraiment sur ce rapport. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. La belle fraternité, on me compare à Jean, etc. C'est cette situation encore dans la confusion, quoi. Mais il y avait cette part-là, peut-être, de revisiter sa façon de voir dire, je dirais.
Non, mais le parallèle que vous faites avec le reniement de Pierre, c'est juste, il est juste là, il s'est raconté. De toute façon, la Bible, l'Évangile, les prophètes et tout ça, c'est toujours la même histoire qui est racontée, toujours. Celle qu'on n'écoute pas. C'est pour ça que je vous ai cité Isaïe là tout à l'heure, c'est le Seigneur me donne une oreille pour que j'écoute. Et oui, et on n'écoute pas. Et il n'a pas entendu le coq aussi, c'est tout. Et puis, bon, l'histoire du coq, c'est encore merveilleux, quoi, ça. Mais on n'écoute pas. Donc, méditez le psaume 118, 119 tous les jours. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu. Tout, c'est pas. Et pas déroger de ça. Pas déroger de ça. Il lui dit, suis-moi. Le gars, la première. Le mot qui suit, il se retourne.
Cette écoute avec le cœur aussi, hein, parce qu'on peut écouter et que ça passe, c'est difficile, quoi. Je veux dire, moi j'aime aussi beaucoup Pierre, parce que je trouve qu'on lui a demandé beaucoup aussi quelque part, hein, c'est paix et brebis.
Oui, oui, non, mais c'est.
l'intervention aussi difficile, c'est lui qui a dû faire mettre en place les fondements quand même, de cette église de Rome.
Oui, oui, non, mais le personnage est extraordinaire. C'est Pierre, c'est nous.
Nous,
mais de toute
voilà,
façon, c'est tout. C'est pas.
Et dans tous les aspects qu'on peut avoir, soit chacun, moi, vanité, on veut, quoi. Bien sûr, quel genre humain.
Mais comme jeu, on avait terminé tout à l'heure par Alexandre et Rufus, là, c'est pareil. C'est pas deux frères, là, mais c'est le gars. Mais non. Pierre savait bien que Jean était aimé de Jésus. Là. Il lui dit, ah, mais écoute, pourquoi tu me poses la question? Je t'aime. Et puis, alors suis-moi. Il y en a un qui a suivi. L'autre a suivi. Jean a suivi parce que s'il me plaît, qu'il demeure en moi. Qu'il demeure, s'il reste assis. Oui, justement, l'autre, il était un peu. Il avait fait un cheminement un peu différent. Voilà.
Quand certains catholiques me disent, mais pourquoi tu es orthodoxe? De ma famille, hein. Et j'aime beaucoup dire, Pierre était là pour montrer à l'extérieur, et que Jean, c'est, pour moi, c'est le lieu orthodoxe, c'est l'intimité, c'est l'intériorité. C'est cette proximité de Jean sur le cœur du Christ. Ces battements de cœur, cette proximité-là.
Oui, mais il faut pas se laisser piéger par l'Église. De catholiques comme l'église de Pierre, l'église du Saint-Esprit de Jean, l'église orthodoxe.
Ça me parle bien.
Oui, mais ça parle, mais attends, il ne faut pas se laisser piéger par l'image. L'église est une, les limites. On a du Pierre dans l'église. Et je crois parce que moi je suis Pierre, c'est tout. Je suis dans ma foi de tous les jours, ben je suis comme ça. Je crie au Seigneur, oui, ben je t'aime, Seigneur. Puis d'ailleurs, de toute façon, j'aimerais bien que tu me dises que je fasse ça. Et oui. Et surtout pas de me dire, tu suis moi. Non, l'autre là, derrière, il pourrait te suivre. Hein. C'est juste. Il n'y a pas de jugement de Jean sur Pierre, là.
Merci, Père Jean-Claude.
Oui.
Merci pour ton intervention.
Non, pas de machine.
Voilà. Donc, on va conclure cet après-midi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On se retrouve dans un quart d'heure à l'église pour chanter les vêpres. Voilà, Père Marc-Antoine, est-ce que tu veux dire un mot?
Je me dis pourquoi.
Si tu veux, hein, Père. Hein,
oui, non, c'est peut-être intéressant de conclure aussi. D'abord, je veux dire que j'apprécie beaucoup chez Père Jean-Claude la pédagogie que tu envoies, Père. Ça m'instruit beaucoup. C'est une manière de procéder. Ça me fait un peu envie quand même. Je ne sais pas où tu as appris comme ça à donner tellement envie d'en savoir plus, et c'est vraiment très bon.
Ah bon.
Et puis la pédagogie de donner envie d'en savoir plus, je voulais dire ça. Et puis j'ai beaucoup aimé que tu emploies le terme de jubilation, parce qu'effectivement c'est un peu ce que nous disions ce matin, le signe du Saint-Esprit dans l'Église, c'est cette ferveur. C'est ferveur, ça veut dire chaleur, comme vous savez. Et donc, c'est pas n'importe quelle ferveur, parce qu'il y a des ferveurs qui pourraient être d'un autre esprit. Et pour savoir que la ferveur qui est en nous est du Saint-Esprit, nous vérifions, nous constatons que cette ferveur est suscitée par l'amour du Christ, hein, et l'amour de la parole incarnée. C'est ça qui nous permet d'identifier la ferveur qui est en nous à la grâce du Saint-Esprit, parce que, de toute façon, à ne pas être trompé par d'autres esprits qui ne sont pas de Dieu. Mais donc, ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est aussi ce que nous avons essayé de dire depuis ce matin. Alors, j'apprécie beaucoup le fait que ce qu'il avait essayé un peu maladroitement d'exprimer ce matin se trouve bien complété, plus structuré et posé, j'irais, par l'exposé de Père Jean-Claude. Mais donc, on a bien fonctionné ensemble. Ça, je remercie beaucoup Dieu de nous avoir aidé à faire ça. Et c'est vrai que ça culmine ce qu'on a essayé d'approcher. C'était cette notion de disciple et de disciple, le rapport entre, au fond, le disciple et le saint. C'est ça autour de quoi on est en train de tourner, si je peux dire. Et je me rappelle que les pères à ce sujet, Saint-Nicolas Cabasilar, ce que j'ai apporté aujourd'hui, mais les autres aussi, ils insistent toujours sur le fait que le disciple, bon, c'est celui qui, étymologiquement, c'est-à-dire c'est mathitis en grec, c'est celui qui, c'est l'appreneur, en fait. Être disciple, c'est assimiler, mémoriser, consommer, manger, assimiler par manducation et par consommation. C'est pas du consumérisme, mais on a été une époque où on parle beaucoup de ça, de la consommation, mais effectivement, être disciple, c'est apprendre la parole, mais l'apprendre en la consommant et l'apprendre en se l'assimilant. Ça, c'est aussi assez important. Donc, les pères insistent beaucoup là-dessus, sur le fait que le disciple n'est pas celui qui imite de l'extérieur. Par exemple, vous savez, il y a eu un livre en Occident qui a circulé qui s'appelait « L'imitation de Jésus-Christ ». Ce titre et ce thème ne nous paraît pas spécialement intéressant. Parce que le disciple n'est pas celui seulement qui imite le Christ, qui imite Dieu, qui imite comme un modèle extérieur, comme un gourou extérieur. Mais le vrai disciple est celui qui consomme le maître. C'est lui qui assimile le maître, c'est lui qui s'assimile au maître. Donc c'est pas un thème simplement théologique, si vous voulez, mais l'expérience chrétienne, la vraie expérience chrétienne, c'est l'expérience de l'assimilation au Christ et de l'assimilation du Christ en nous, ce que ce matin nous avons appelé plusieurs fois la divinisation ou sanctification. On se sanctifie ou on est sanctifié, on est divinisé ou déifié parce qu'on assimile la divinité en la personne du Verbe, en la personne de la parole incarnée, on l'assimile et on s'assimile à elle. Et c'est ça qui fait comprendre aussi le sens du mot esclave que Père Jean-Claude a employé, qui est un mot que personne n'a envie d'entendre parce que esclave, ça fait moche, ça fait pas propre quand même. Hein. Non, parce que nous sommes tellement influencé par une idéologie politique, mais qui n'a aucun rapport avec le sujet ici. Hein. Mais le thème de l'esclavage a été développé beaucoup par l'apôtre Paul, je crois que c'est lui qui est le promoteur de ce thème-là, mais il est interprété de manière très intéressante, c'est-à-dire que, par exemple, Saint-Nicolas Cabasilas, il oppose l'esclavage suivant le monde à cet esclavage du Christ qui est en fait un esclavage libérateur. C'est quelque chose d'assez génial, parce que c'est l'esclavage selon le monde, qui existe dans certains pays encore sur Terre, comme vous savez parfaitement, c'est vraiment une servitude déshumanisante. Hein. C'est-à-dire que l'être humain ne devient jamais rien, il n'a aucune possibilité de s'épanouir de manière personnelle. Alors que l'esclavage du Christ, ou l'esclavage au Christ, ou l'esclavage du Christ à nous, d'ailleurs, parce que c'est un esclavage réciproque, cette servitude est une servitude libératrice. Et c'est pas si facile à comprendre, mais elle est libératrice premièrement parce qu'elle est volontaire. La différence entre l'esclave du monde et l'esclave du monde, c'est des gens qu'on avait attrapés, des esclaves de guerre, ou qu'on avait achetés, des gens qui n'avaient rien demandé, ils n'avaient jamais demandé à être esclaves. Hein. Donc ils étaient des esclaves qui subissaient la servitude. Alors c'est l'esclave du Christ, il choisit la servitude du Christ. Il est esclave volontaire, esclave par choix, esclave bénévole. Voilà, moi aussi je veux appartenir à ce maître. La parole d'Annie.
Je me permets de te couper. Justement, le fait d'être esclave volontaire, je relis à une autre parole qui est dite : il n'y a plus de grec, de juif, de blanc, de noir, etc. Parce que justement, lorsqu'on est esclave volontaire, on n'est plus rien. On n'a plus d'identité. Toutes ces barrières tombent. Oui, si on est véritablement esclave volontaire du Christ, ben, il n'y a plus de grec, de juif, de machin. J'avais jamais pensé à ça.
C'est vrai qu'on est libéré de toute autre appartenance.
Appartenance.
Oui, oui, oui.
Et en fait, pour terminer, en fait, ce qui est souligné par les anciens, c'est que cet esclavage est volontaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'esclavage de l'amour. Donc c'est vrai qu'on continue à garder le terme d'esclave et de servitude, parce que justement, comme dit Père Jean-Claude, c'est quand tu n'as plus rien d'autre que l'esclave du Christ, c'est celui pour qui le Christ est tout. Vous savez, c'est comme dans les charades, mon premier c'est ceci, mon deuxième c'est cela, et mon tout, et mon tout c'est le Christ. Et parce que mon tout c'est le Christ, et que je n'ai rien d'autre que lui, et que je n'appartiens à rien d'autre qu'à lui, parce qu'il est le tout du tout, je vis cet esclavage-là. Mais s'il est mon tout, et que je suis aussi son tout, si on est le tout pour l'un et le tout pour l'autre, c'est-à-dire qu'on vit vraiment l'amour absolu. Donc ça veut dire que la vie chrétienne, c'est une mystique. C'est l'expérience de l'amour absolu, non seulement de Dieu pour nous, et l'émerveillement d'être aimé de Dieu, mais l'expérience d'un amour total de nous-mêmes à lui. C'est pour ça que c'est un esclavage qui est libérateur, c'est un esclavage qui est jubilatoire, comme tu as dit, qui nous empêche de dormir. Et alors justement, je dis ça, puis je m'arrêterai après, Saint-Nicolas Cabasias parle de ça justement. Il parle il dit, l'esclave d'un homme, un esclave ordinaire, comme dans certains pays, éprouve inévitablement, de l'amertume. L'esclave du Christ, au contraire, ne peut ressentir que de la joie. Chacun d'eux ne cède plus à sa propre volonté, mais à celle de celui qui l'a acheté, si on prend l'un ou l'autre. Le premier subit les corvées et les ennuis, en suivant un maître, en but à la tristesse et à d'innombrables peines. Mais le deuxième, c'est-à-dire l'esclave du Christ, comment pourrait-il pleurer alors qu'il est animé d'une joie authentique? L'homme qui a dépensé de l'argent pour un esclave ne l'a pas déboursé pour procurer des bienfaits à celui qui l'a acheté. Ce qu'il veut, c'est retirer à son profit les avantages du travail de son esclave. L'esclave est utilisé pour le profit de celui qui l'a acquis, etc., etc. L'inverse se produit pour les esclaves du Christ. Tout a été réalisé en vue de leur intérêt. Il, le Christ, n'a pas payé la rançon pour tirer avantage de ceux qu'il a libérés, mais ce qui est à lui leur appartient aussi. Le maître et ses œuvres profitent aux esclaves. Et, bon. Et donc il conclut en disant aussi après, le Seigneur marque encore un autre motif de nous réjouir, puisque c'est comme dit beaucoup Père Jean-Claude, c'est quand même la joie qui est le critère. Mais la joie dans le Christ, pas n'importe quelle joie non plus. La joie dans le Christ qui est le critère. Le Seigneur marque encore un autre motif de nous réjouir en appelant celui qui partage sa joie, bon serviteur ou bonne esclave, les deux mots. Hein. Lui-même se nomme Seigneur en déclarant, serviteur ou esclave, bon et fidèle, frère, regardez le texte, entre dans la joie de ton Seigneur. Ce qui revient à dire, parce que tu es resté mon serviteur et que tu n'as pas déchiré le contrat de ton acquisition, de ton achat, donc c'est bien l'esclave, reçois la joie de celui qui a fait ton acquisition. La même joie devient commune au maître et au serviteur. Et il prend après ça les exemples de Saint Jean-Baptiste. Et il conclut, il développe ça en disant que c'est ça la vie des saints. Enfin, la vie des saints, c'est d'être des disciples complètement, en fait, consacrés. On revient à ce mot de consacrer de ce matin, complètement consacrés au Christ. Mais c'est vrai que de l'extérieur, on dit, bon, alors vous ne faites plus rien, vous n'allez plus au cinéma, vous ne regardez plus la télé, c'est pas drôle votre religion. Mais la question ne se pose pas si on aime, vous voyez. C'est la logique de l'amour qui est la seule possibilité de comprendre tout ça. Autrement, c'est insupportable. De même, par exemple, le thème de la croix, celui qui prend sa croix, donner sa vie, etc. S'il n'y a pas d'amour, c'est insupportable. C'est insupportable. L'amour est le seul critère de vérité de tout cela, la seule façon que ça soit absolument libératoire. Autrement, c'est insupportable. Et c'est vrai que chaque fois que dans l'histoire de la chrétienté, on a négliger l'amour, le christianisme lui-même est devenu quelque chose d'insupportable. La religion, ça peut être insupportable, il faut quand même avoir le courage de le dire. Et c'est insupportable quand justement les choses ne sont pas faites par amour fou pour Dieu.
Quelque chose qui peut être insupportable aussi, je crois que c'est dans Deutéronome, notre Dieu est un Dieu jaloux. Et ça ne peut être que pris aussi que dans cette forme essentielle-là d'amour fou
pour Dieu. Oui, ça fait attention que l'expression, évidemment, est une expression imagée. Ça ne veut pas dire qu'on attribue à Dieu une très mauvaise passion. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'exclusif.
Essentiel.
Quelque chose d'exclusif et d'absolu dans cette appartenance mutuelle. Alors donc, il faut avoir le courage d'employer le terme de doulos. Par exemple, la mère de Dieu, elle est zouli. Elle est esclave. Je suis l'esclave. Alors, on n'ose jamais traduire esclave. On dit je suis la servante du Seigneur parce qu'on a peur de tout. Mais en fait, c'est je suis l'esclave. Mais on voit bien que cet esclave, cet esclavage la transfigure. C'est un esclavage libre, une servitude libre et une servitude transfigurante. Pardon.
Je trouve que cette notion d'esclavage aussi nous renvoie évidemment inévitablement à l'obéissance et comme ouais. cette règle fondamentale qui fonde l'Église et donc qui nous greffe chacun. Et c'est une notion malheureusement, je trouve, qui est mal comprise parce que cette notion d'esclavage dans l'amour n'est pas comprise non plus. Donc voilà, on vit comme quelque chose d'extérieur, alors qu'il s'agit d'une contrainte volontaire. C'est encore une fois, donc cette notion d'obéissance, elle est liée à cette notion d'esclavage. Donc c'est l'Église, dans sa pédagogie, nous dit, ben voilà, pour devenir esclave, voilà, tu vas déjà commencer, avant d'être esclave du Christ, peut-être déjà commencer par être esclave déjà de ton père spirituel, ou de, voilà, de quelque chose comme ça qui nous relie par l'obéissance à voilà, cette pédagogie de l'Église.
Anne
Sauf que l'amour, ça se décrète pas. Quoi. On ne décrète pas, je vais aimer, je vais... Voilà, c'est aussi par la grâce, parce qu'on peut dire, celui-là, je vais faire de mon mieux pour l'aimer, et puis passer son temps à le détester.
Oui. Et en même temps, c'est très important ce que vous dites, Anne, là, parce que... Mais oui, c'est ce que nous pensons tous. Et en même temps, l'expérience chrétienne, c'est que il est tellement aimable, hein, ce Christ, qu'on voudrait l'aimer plus. On a mal de ne pas l'aimer autant qu'on pourrait l'aimer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Et comme nous sommes confrontés à cette insuffisance de l'amour, aux limites de notre amour, nous demandons aussi à Dieu la grâce de l'aimer comme il nous aime. Il y a aussi une acquisition de l'amour parfait et une culture, un développement. Et on a mal de ne pas aimer autant qu'on pourrait aimer, quand même.
Bon.
Dans Jean, ce texte s'y fait quand même, et il gardera ma parole. Je pourrais peut-être le chanter si on en fait le connaissent. Cet échange entre la demande, l'appel du Christ à l'aimer, et voilà, enfin, j'ai pas envie de rentrer dans trop d'explications, mais je trouve que de temps en temps de reprendre ça ce que nous avons appris avec Germain Franquet et Al, ça permet de faire rentrer aussi, d'intérioriser, de vivre. Voilà. Je sais pas, il y en a qui le connaissent. C'est quelque chose qu'on chante assez volontiers au moment de la Pentecôte, justement. Voilà. C'est comme ça. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole, et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses alors que je demeurais près de vous. Prends le souffle, le Saint, que mon Père verra en mon nom. Celui-là nous enseignera tout, et vous sera souvenir de tout ce que je vous ai dit.
Mais c'est exactement ça, hein? Parce que la finale de Jean, c'est celui qui écoute le Fils de la grâce, il devrait aimer.
Ah oui, mais je t'aime.
Sauf qu'il n'écoute pas. Pourtant, il a la grâce, il est le Fils de la grâce. Il a la grâce d'avoir la grâce d'écouter. Et il n'écoute pas. Il se retourne. Donc, la grâce, oui, on l'a, la grâce. Elle est en surabondance. Sauf qu'on n'écoute pas. parce qu'on a envie d'écouter que ce qu'on a envie d'écouter. Pierre avait envie d'écouter paix mes brebis. Et quand l'autre lui dit suis-moi, merde, non, c'est justement je veux être le chef de faire paître les brebis. Mais non, il faut suivre. Et parce qu'il est bien question de mort, vous vous rappelez ? Il est bien dit, il est de la mort, j'ai passé un peu vite, de la mort dont il allait mourir. Vous savez qu'il est mort crucifié.
Ben oui.
Eh oui.
En même temps, le Christ ne le condamne pas. Il sait que la chair, l'esprit est prompt et la chair est faible. Et que, comment dire, il lui dit, bon, ne t'occupe pas de lui, viens derrière moi. Il n'en fait pas
Paul,
une...
Paul, je n'ai pas dit qu'il le condamne. Ouais. Je dis justement,
c'est bien que nous avons cet élan-là.
La grâce est donnée. Nous sommes des fils de la grâce. Sauf qu'on n'écoute pas. Ou on écoute que ce qu'on a envie. Bon. Sous prétexte d'aimer, d'ailleurs. J'aime le Seigneur, mais je n'écoute que ce que j'ai envie d'écouter. Je trie. Et quand il me demande quelque chose d'aller jusqu'au bout, donc de ma kénose, d'aller pour Pierre, il est bien dit, de la mort dont il allait mourir. Il ne va pas. Il se retourne.
Oui, mais après, il se retourne, il revient, et il va vers la mort.
Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'est bien l'avertissement du Seigneur. La grâce nous est donnée en surabondance.
Ça répond à la question. Quel est votre nom ? J'ai posé la question concernant Judas.
Ah.
Oui, c'est un peu dans le sens de ce qu'on cherchait tout à l'heure. C'est finalement, on insiste toujours sur la différence entre Judas et Pierre. Que Judas, donc effectivement, il a dit fais ce que tu as à faire, il l'a fait, il l'a fait. Mais après ça, Pierre se retourne vers le Christ après avoir trahi. Alors que Judas se trompe d'interlocuteur. Et donc, il aurait pu aussi se revenir vers le Christ et demander pardon. Puis, là, il se trompe.
Ouais.
Non, il n'était pas écrit qu'il ne se repentirait pas. Il y a quand même une part qui est à lui, et qui n'est pas seulement une sorte de déterminisme des Écritures. La part à lui qui est... Parce que c'est quand même le seul qui a dit « J'ai livré un sang innocent ». C'est-à-dire qu'il avoue qu'il avait livré un sang innocent, ce qui est extraordinaire. Rien que pour cette parole-là, je pense qu'il doit pouvoir être peut-être défendu devant Dieu. Mais après ça, il ne se tourne pas vers le Christ, hein. Il y a quelque chose qui est raté là. Pardon.
Oui, non, mais certainement. C'est en tout cas ce qui est. Mais moi, j'ai une parole qui est d'un. Quelque chose qui m'a toujours. Tu as parlé du suicide ce matin, ça m'a toujours titillé quand j'étais jeune. C'est un saint qui est bizarre, hein, quand même. Non. Mais bon. Le curé d'Ars. Le curé d'Ars, il a raconté quelque part, à un moment donné, il est sur un pont. Et il marche, et il y a un homme qui se suicide. Il est avec une vieille dame qui dit « C'est malheureux, il va directement en enfer. » Et le curé d'Ars, il dit « Je ne sais pas. » Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a fait à la dernière seconde, millième de seconde avant de toucher l'eau ? La dame dit « Je ne sais pas. » Je ne sais pas. Donc, il y a, à un moment donné, il y a un mystère total. Et puis... Dieu est bon et ami des hommes, bon, veille. Mais ceci dit, ce qui nous est rapporté de l'épisode de Judas, c'est vrai que Pierre se retourne et se repent, et l'autre ne va pas jusqu'au bout de son repentir, même s'il dit...
C'est qu'il se tourne vers les juges de... Oui. Il ne se tourne pas vers le Dieu miséricordieux, ouais, c'est ça le problème.
Vous dites qu'il pourrait être défendu devant Dieu, parce que il a eu à un moment donné conscience qu'il avait livré.
Ah oui, il l'a dit à voix haute.
Hein. De ceux qui n'ont pas conscience.
Oui, c'est notre oui. Oui, mais alors je ne sais pas si on peut assimiler. Là, il a, comme disait votre ami, c'est qu'il y a une activité très précise, une mission très précise de Judas qui est d'être l'agent. Pas principal, mais un des agents principaux du mystère d'iniquité. Donc, c'est pas le cas de toutes les personnes qui se suicident. C'est quand même très particulier. Moi, je pense pas qu'il faut faire de Judas l'emblème du mystère du suicide, qui est un petit peu plus complexe que ça. Lui, il est dans une mission très particulière, qui est de faire que soit livré par haine le Fils de l'homme.
Non,
j'ai peut-être pas entendu, pardon.
Il a eu à un moment donné conscience qu'il a livré le Fils de l'homme, etc.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de indépendamment du, c'est pas la question du suicide que je soulève, c'est celle de, bah, de faire du mal, tout simplement, sans conscience. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Et c'est tous les jours autour de nous, tout le temps, enfin, parfois même nous-mêmes. Et quand on se confesse,
Mais on nous confesse, premièrement, nous confessons, enfin, nous demandons aussi le pardon de Dieu pour nos péchés involontaires ou inconscients. Et puis, il y a le dernier jour. Le dernier jour, il y a aussi beaucoup de possibilités, je pense quand même, que de nous étonner du mal que nous avons fait sans le savoir, ou du bien que nous avons fait sans le savoir. C'est-à-dire, ce sera un jour de grand étonnement. Quand le Fils dira « Venez les bénis de mon Père », des gens qui seront bien étonnés d'avoir fait du bien alors qu'ils n'avaient jamais pensé en faire, ou « Allez-vous-en, les maudits de mon Père », donc ils seront bien étonnés d'avoir fait du mal alors qu'ils ne pensaient pas en avoir fait. Nous ne savons pas tout non plus de nous-mêmes. Enfin, on prie pour ça. C'est aussi ça, le ministère de l'intercession. Nous prions aussi pour que Dieu pardonne à tous et à ceux qui ont fait du mal sans le savoir, qui ne regardent pas leur péché. En réalité, c'est quand même le fait de se séparer délibérément de l'amour de Dieu qui est une chose terrible. Après ça, il y a toutes sortes de degrés après, hein.
Si Judas, au moment de tirer la corde, a pensé aussi à autre chose.
Ouais.
Pour que ça comprenne ces écritures, je me dis que c'est toujours d'actualité quelque part, dans la mesure où s'approcher pour l'Eucharistie, c'est vraiment ce rappel de la scène. On va être dans cette communion-là, de ce partage-là, et peut-être dans l'oubli aussi rapidement, et banaliser l'art de l'Eucharistie.
Oui, bien sûr, c'est très grave. On est sur des choses très très sérieuses. Hein, c'est la communion, quand l'apôtre Paul dit « Prends garde de ne pas communier pour ta condamnation », c'est vrai que ça fait réfléchir. Quand le Christ dit « Ne va pas présenter ton offrande avant d'être très réconcilié avec ton frère », ça fait réfléchir aussi. Oui, on n'est pas des enfants non plus. C'est la vie chrétienne, c'est comme on a dit ce matin et encore cet après-midi, c'est une vie royale quand même. C'est pour ça que les orthodoxes, on met tellement l'accent sur la préparation, l'Eucharistie. On nous critique parce qu'on comprendra bien. En fait, c'est parce qu'il y a, il y a quand même une très très grande conscience du sérieux de ces choses et du caractère non automatique des sacrements. De l'importance de la synergie, de la conscience, de la participation, de la liberté, de l'union des libertés divines et humaines, de l'union de notre volonté à la volonté de Dieu. Alors bien sûr, si on maximalise tout ça, on n'osera plus communier non plus, il faut faire attention.
Oui, parce que si la réconciliation, si on la veut et si on l'osait refuser, on ne va pas communier, parce que
la peut être accordée. Oui. Alors donc, il faut faire attention, c'est pour ça qu'on ouvre toujours la porte. En disant que la communion, c'est l'émerveillement devant la miséricorde. Je pense que les meilleures conditions pour la communion, c'est de communier en étant pénétré de son indignité, justement. Parce que si je suis pénétré de mon indignité, je serai simultanément émerveillé par la miséricorde de Dieu. Donc ça, c'est l'astuce, si je peux dire, spirituelle, pour ne pas s'approcher de Dieu quand même.
Merci mes pères. Voilà. Merci.